Ayant un moment de recueillement et de prière, nous vous donnons quelques renseignements. Dieu notre Père, nous sommes reconnaissants d'être dans ce lieu où depuis tant d'années nous nous retrouvons soit pour travailler de nos mains selon nos capacités, soit aussi pour te servir en cette vie spirituelle, dans l'enseignement de la parole aux petits comme aux grands. Et tu sais que ce lieu nous est devenu cher puisque nous avons pu y regrouper par ta divine puissance des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, non seulement du Québec mais du monde entier, puisqu'un jour nous étions les 5 continents réunis ici. Nous te bénissons pour ces souvenirs que nous avons et pour ta parole qui a été proclamée. Et nous voudrions pouvoir le faire cette année encore avec fidélité. Mais tu sais qu'il faut aussi des lieux aménagés pour cela. Et c'est bien en vue de cet aménagement que nous retrouvons ce soir prêts pour le travail que tu nous dispenseras dans ta grâce, sous la direction de notre bien-aimé Josaphat. Nous te remercions parce que tu as donné des dons aux uns et aux autres et tu vas nous permettre de réaliser cette diversité de dons dans le corps de Christ, que ce soit nos sœurs dans leurs travaux d'hiver, dans la préparation des repas, ou que ce soit nos frères dans ces constructions, dans cet abattage des arbres, et dans les autres tâches que tu vas nous donner. Nous te demandons que nous puissions former des équipes où l'on s'aime, où l'on s'entraide, où l'on se respecte, chacun estimant son prochain supérieur à lui-même. Que dans ta grâce, nous ne dépassions jamais notre propre mesure et que nous puissions jouir de ce que tu nous as donné, des frères et des sœurs, pour tout ce travail, comme tu faisais autrefois dans le désert, au temps de Moïse et dans d'autres moments de Salomon, quand tu répartissais les tâches pour l'œuvre de la construction de la maison de l'Éternel. Merci de ce que tu es notre Dieu, comme tu es dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a été manifesté dans la personne du Seigneur Jésus. Nous te recommandons aussi nos frères et nos sœurs qui peuvent encore venir ce soir, qui sont en chemin, que tu les préserves de tout accident et que tu nous donnes beaucoup de joie dans ton âme. Amen.
Amen.
Eh bien, mes amis, une fois de plus, cette année, quelques hommes et quelques femmes de bonne volonté se trouvent, comme nous le disions dans la prière, réunis en ce lieu pour accomplir un travail qui va nous permettre d'ouvrir pour cet été ce camp en Cedar Lodge, dans cet endroit si beau que nous apprécions tous, dans cet esprit, et que nous avons visité pour la première fois il y a une vingtaine d'années, hein. Ça dure, notre attachement. Et depuis 1970, nous avons pu organiser nos camps Mahanaïm, auxquels nous pouvons ajouter le camp de 1973 et de 1978 que nous avons eu en Israël. On a fait les camps à Cedar Lodge, puis on a fait aussi deux camps en Israël avec tous ceux qui ont pu nous y accompagner. De sorte que nous en sommes au 20e camp Mahanaïm. Et Nous comptons donc, étant donné cette année de relâche, qui était l'année dernière pour les camps Mahanaïm, nous comptons donc maintenant 20 camps Mahanaïm. En ajoutant ces deux du Moyen-Orient. Et certains le savent, l'année dernière, en Suisse, c'était le 50e du premier camp des assemblées que nous avons fait il y a 50 ans l'année passée. Et ma femme et moi, nous étions à cet anniversaire. Il y avait 900 personnes de toutes ces années qui s'étaient réunies dans les environs de Lausanne pour célébrer ce 50e anniversaire. Et vous savez, je me souviens de ces premiers camps où je m'y donnais tout entier à ces jeunes et je voyais des gens déjà très âgés, des grands-pères qui venaient me dire « Mais vous êtes notre père !» Et c'était des grands-pères. Mais ils s'étaient convertis à l'âge de 14-15 ans dans ces premiers camps de Suisse. Et cette même année, l'année dernière donc, nous poursuivions sur l'Italie, où alors nous célébrions le 40e anniversaire de la fondation des camps italiens à Florence même, où je serai déroulant dans 15 jours pour un mariage et encore un camp. Et dans ce 40e anniversaire, là, il y avait aussi un grand rassemblement, nous avons pu faire ces trois camps. Et c'est pour cela qu'il y a eu année de relâche, Mahanaïm, au Québec, parce que nous ne pouvions pas être aux deux places à la fois. Ce qui m'a consolé l'année dernière, c'est que j'ai quand même pu faire le camp Lamater, hein, avec nos amis, le camp et nos amis qui sont ici, nos amis Martel, on a pu faire quand même ce camp familial ici, puisqu'il était organisé par l'Assemblée de Laval, Mascouche, Terrebonne, où se réunissent nos amis Josapha et Françoise, qui sont parmi nous depuis 1970, hein, depuis le premier camp. Et vous savez, je trouve que c'est de la fidélité, parce que la persévérance dans un travail, dans une œuvre, ça ne se trouve pas toujours. Hein. On commence souvent avec beaucoup d'ardeur, et puis après, ben, on s'habitue, ou on se relâche, parce qu'on n'a pas que des joies dans les camps. On a aussi beaucoup de chagrin, on a aussi beaucoup de peine. Et cela, c'est dans le programme. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Si des âmes viennent au Seigneur, il y en a aussi qui retournent dans le monde. Si vous lisez les épîtres de Paul, bien, vous voyez qu'il avait déjà ces souffrances-là. Démas m'a abandonné ayant aimé le présent siècle. Il y a eu des défections. Et si vous pensez à Jésus, à sa dernière soirée, à la fin de 3 ans de ministère où il s'est donné entièrement, eh bien, qui l'entourait vraiment? Qui était vraiment avec lui? Il y avait même son économe, Judas, qui allait sortir dans la nuit pour trahir son maître. Pensons peut-être que le Seigneur allait s'en tirer, il s'en était tiré tant de fois. Mais voilà, cette fois-là, le Seigneur n'allait pas s'en tirer. Parce que dans les conseils de Dieu, il devait mourir. Il fallait que le Christ souffrit ces choses. Mais malheur à l'homme par lequel le Seigneur allait être livré. Et je suis toujours frappé de penser que Jésus était triste dans la dernière soirée qu'il a passée avec ses disciples. Il a institué la scène, comme nous verrons dimanche, mais en même temps, il a dit « Oh, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point péché. » Mais maintenant, leur péché demeure. Et Jésus était triste, et tellement triste que quelques heures après son repas, Vous le voyez dans un jardin, en pleine nature, à Gethsémani, certains connaissent ce lieu, puisqu'ils y sont venus aussi avec nous. Vous voyez Jésus abîmé dans la souffrance et dans les larmes. Il pleure sur la dureté des cœurs. Et vous savez, ici à Mahanaïm, nous avons pleuré aussi, et nous pleurons aujourd'hui sur la dureté de certains cœurs. Nous ne jugeons personne, mais nous pensons à des âmes qui nous sont chères, et nos cœurs sont dans la tristesse. Mais nous voulons être aussi dans la confiance. Nous savons que Jésus n'est pas seulement le berger qui cherche les brebis perdues, mais celui aussi qui peut ramener celles qui se sont égarées. Et si nous pensons à certaines âmes qui ont été ici quand même, participer aux responsabilités qui ont eu une part à l'enseignement, des enfants aussi, eh bien, nous ne voulons pas les juger, mais les aimer et nous dire, prenons garde à nous-mêmes, car l'Écriture nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Quand on dit, mais ça, ça ne pourrait jamais m'arriver à moi, c'est attention. Souvenez-vous que c'est le langage de l'apôtre Pierre, avant sa chute, quand même tous t'abandonneront, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et quelques heures après cette fameuse déclaration, il a dit, je ne connais pas cet homme. Alors mes amis, puisque vous avez à cœur l'œuvre de cette association, qui est une association sans but lucratif, Cedarlodge, bien année après année, ensemble, nous avons cherché non seulement de maintenir ces baraques, ces maisons, mais d'y faire aussi des rénovations et certains renouvellements nécessaires. Et ces dernières années, grâce à ces équipes qualifiées sous la direction de Jovafar, comme vous le savez, de Maisonnette et de Michel en particulier, ont été édifiés et nous nous proposons dans ces journées d'en édifier, d'en construire une troisième en remplacement d'une tente, à mesure que les tentes pourrissent, c'est-à-dire les maisonnettes les remplacent. Et c'est donc Josapha qui s'occupe de la répartition des équipes et qui nous donnera au fond le programme de ces équipes. Mais c'est pas ce soir que vous avez fait. Et alors, vous avez la patience d'attendre jusqu'à demain. Vous pourrez dormir, en été, ne sachant pas ce qui vous arrivera demain. Hein? Demain, dans quelle équipe serez-vous? Avec qui travaillerez-vous? Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Faites confiance au Seigneur. Il vous mettra avec celui ou celle qu'il aura choisi. Au point de vue matériel, on est obligé, c'est pour ça que je parlais de Michel, qui m'a signalé que l'eau n'arrivait pas là-bas. Alors, je crois que, puisque nous avons des toilettes sèches pour cette nuit, si nous ne dormons pas, il faudra utiliser les toilettes sèches. Et pour se laver, on attendra l'eau. Je pense qu'on a pris quand même une douche avant de partir. À moins que ce soit vendredi dernier. Je ne pense pas quand même. Hein? Mais c'est un petit inconvénient. Mais il y a de l'eau à boire quand même. À la cuisine. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'avais pas du tout réalisé que ce week-end, qu'on appelle le week-end de la reine, hein, c'est la vieille reine Victoria, ou de dollars, tombait cette année sur la fête de Pentecôte. En Europe, la fête de Pentecôte a beaucoup plus d'importance, semble-t-il, que j'ai vu ici au Canada. Parce que le lundi de Pentecôte, c'est toujours férié.
Tandis que vous, ici, le lundi de Pentecôte, c'est pas sérieux. Au Canada, au Québec. Et nulle part au Canada. De sorte que si ce lundi est férié cette année, c'est pas à cause de Pentecôte, mais c'est parce que ça tombe sur la fête de la Reine. Mais enfin, moi, j'avais pas du tout réalisé que notre week-end tombait sur Pentecôte. Parce que nous avons habituellement à Pentecôte, en Europe, des grands rassemblements chrétiens, tout est consacré à des réunions. Mais j'ai été intéressé de penser que l'Esprit de Dieu avait conduit les choses comme cela pour nous ici au Québec. Chez les Juifs, vous savez ce que la fête de Pentecôte rappelle. Ça rappelle quel événement? Moi, je ne vais pas vous faire passer un examen. Ce n'est pas du tout mon envie. Ça rappelle le jour où Dieu a donné les tables de la loi à nous. Pentecôte est la fête qui, chez les Juifs, rappelle le don de la loi. Les 10 commandements que le Seigneur avait écrits de son doigt. Et Moïse descend de la montagne pour apporter les tables de la loi. Ils ont entendu, donc, 40 jours avant, Dieu parler distinctement sur cette montagne flamboyante, et ils ont entendu cette voix de Dieu qui leur donnait les 10 commandements. Mais non content de leur avoir donné les 10 commandements d'une façon orale, Dieu, dans son amour, les a confiés à Moïse après les avoir écrits sur des tables de pierre. Mais quand notre Moïse est redescendu de la montagne en portant les tables, qu'est-ce qu'il a trouvé? Au bas de la montagne, un mot d'or, un vrai festival. On aime beaucoup le beau festival. Alors, moi, je pense toujours à ce festival-là. Le festival du désert. Il n'y avait que 40 jours que Dieu avait parlé, hein, et ils avaient entendu cette voix. Ils étaient tellement saisis de crainte qu'ils ont dit à Moïse, « Oh, dis-lui de ne plus nous parler, qu'il te parle à toi, hein, va pour être notre médiateur, mais ça nous fait trop peur, nous pensons mourir. » Et voilà, les hommes n'ont plus voulu entendre la voix de Dieu d'une façon distincte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Mais si Dieu existe, pourquoi tu ne parles pas? Quand Dieu se met à parler, on ne veut plus l'entendre. Et même alors, Dieu accepte, il dit, bien, alors, je ne parlerai plus, mais il donne ses paroles gravées sur des tables de pierre. Mais quand Moïse et Josué arrivent et qu'ils voient le peuple dans le désordre, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient dit, c'est Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et ils avaient fait un veau d'or. Comment avoir de l'or au désert? Eh bien, il y avait assez de sœurs, assez de femmes, et qu'il y avait des boucles d'oreilles. Et enfin, on a ramassé tout l'or que ce peuple avait pris en sortant d'Égypte, et on l'avait fondu, et sous la direction d'Aaron, on en avait fait un veau, et ils étaient prosternés devant, comme le dit l'Écriture, une bête qui mange de l'herbe. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà la folie de 40 jours après. Et alors, la Pentecôte, donc, a rappelé pendant des siècles, et rappelle encore aux gens d'Israël, ce grand événement qui était le don de la loi. Et alors pour nous les chrétiens, que signifie Pentecôte? Pour les juifs, c'était aussi la fête de la moisson, parce que les moissons étaient là, prêtes, alors on a combiné fête de la moisson avec ce rappel du don de la loi. Pour nous les chrétiens, qu'est-ce que ça nous rappelle Pentecôte? Le don de l'Esprit Saint. Alors vous voyez, il y aurait tout un parallèle à faire entre ce que c'est pour les Juifs, le don de la loi, et puisque c'est pour les croyants chrétiens, le don du Saint-Esprit. Et de ce fait-là, la loi, eh bien, quand elle s'adresse à la chair, qu'est-ce qu'elle manifeste? Si vous êtes sous la loi, c'est de la condamnation, parce que la loi manifeste quoi? Ma nature, qui est une nature de péché. Alors, vous voyez, la loi va manifester l'impuissance de l'homme à faire le bien, et qu'il est habité par le péché. Tandis que la Pentecôte chrétienne, c'est la promesse du Père que le Seigneur avait confirmé plusieurs fois dans son ministère, que quand il aurait accompli l'œuvre de notre salut, il remonterait auprès du Père et il nous enverrait le Saint-Esprit. De sorte que ce dimanche que nous allons passer ensemble, c'est le dimanche où les apôtres, après leurs expériences diverses, se trouvent réunis dans une chambre haute où ils sont en prière, ils sont assis comme vous êtes assis, donc dans le calme, dans la paix. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu 10 jours avant? Ça me frappe aussi. Le jeudi saint, pour vous, ça n'a pas l'air d'être très marqué au Canada, mais en Europe, on le marque davantage parce que c'est aussi un jour férié. Le jeudi de l'Ascension. C'est 40 jours après, qu'elle fait, que le Seigneur, ayant donné ses dernières exhortations à ses disciples, s'est trouvé sur la montagne des Oliviers et il leur donne ses dernières exhortations, la grande commission, quand les apôtres lui ont dit en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons, que le Père est réservé de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Ou, à Jérusalem d'abord, dans la ville qu'ils habitent, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. De sorte que si nous sommes rassemblés ce soir, eh bien, c'est à cause de l'accomplissement de cette promesse de Jésus, et aussi à cause de la fidélité de ses apôtres qui, le jour de la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit. Mais la dernière vision qu'ils ont eue de leur Seigneur, c'est ses mains qui s'ouvraient pour les bénir. Ils étaient tous sur la montagne des Oliviers, puis tout à coup le Seigneur se lève. Ils voient le Seigneur qui avait marché avec eux, qu'ils ont vu crucifier 40 jours avant sur une croix entre deux brigands. Voilà ce Seigneur vivant, ressuscité, qui monte et qui les bénit. Et alors, en les bénissant, qu'est-ce qu'ils pouvaient montrer? Qu'est-ce que les disciples pouvaient voir s'ils le regardaient, hein? Eh bien, ils voyaient les marques des clous. Et quand Jésus reviendra, il aura toujours encore ses marques. Puisque les Juifs, il a dit, quand ils le verront, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est bien le même Messie qui reviendra. Et alors, ils se lamenteront comme on se lamente sur un fils unique, ou comme on se lamente sur un premier-né, et ce sera le moment de leur conversion au Seigneur. Eh bien, j'aime à dire souvent que quand Jésus est parti, et que les disciples regardaient son mari, qu'est-ce qui est parti avec lui? Ce qui est parti avec Jésus auprès du Père, c'était leur cœur. Il a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est pour cela que vous voyez, les disciples ne se disputent plus entre eux. Tandis qu'avant, si vous lisez avant Pentecôte, la vie des disciples, ils sont toujours en train de se chicaner, de se questionner pour savoir lequel serait le plus grand, lequel serait peut-être favorisé, comme aussi lequel a le plus grand don pour travailler dans ses journées ici au camp. C'est pas ça qui est important, c'est que chacun y mette son cœur et fasse toute chose de cœur comme pour le Seigneur. C'est l'esprit qui doit régner dans ses journées. Et vraiment, si nous savons que le Seigneur est auprès du Père, et que là est notre cœur, et nous sommes ici, et dans ce feeder lodge, et nous voudrions préparer ces lieux pour qu'il puisse y avoir d'heureuses rencontres, d'heureuses réunions, que le Seigneur soit vraiment présent au milieu de nous, et puisse toucher tous les cœurs de ceux qui se rassembleront et que nous ne connaissons pas encore. Nous savons que le camp familial, Mahanaïm, camp de Dieu, eh bien, il est déjà rempli, il y a même une liste d'attente. Alors, nous bénissons le Seigneur en pensant que ça répond donc à un besoin, puisque les gens se sont manifestés, et très rapidement, il y a déjà plus de place. Et ensuite, il y aura donc les camps Mahanaïm habituels, et ce sera le livre de Job que nous avons pris cette année, c'est peut-être notre dernière année pour nous ici. Alors, ce livre de Job, nous le résumons dans ce thème « Connais-toi toi-même ». Car c'est cela, apprendre à se connaître soi-même, c'est ce qui manquait à Job, et ce fut une des raisons de ses souffrances. C'était pas une punition, parce que c'était un homme juste. C'était pas un châtiment. Ses amis sont complètement trompés. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. C'était pas du tout ça. Il était tout à fait à côté de la question. C'est parce qu'il avait besoin d'apprendre à se connaître lui-même devant Dieu. Et on apprend à se connaître soi-même que quand on est dans la présence de Dieu. Parce que quand on est dans la présence des autres, on se trouve pas si mal que ça. On en voit des plus moches que nous. On n'est pas bien, nous, mais les autres, ben, oui. On se supporte, on voit certains. Des fois, alors, on en a tellement marre qu'on est prêt à se suicider. C'est ce qui arrive toujours tout autour de nous. Et bien que le Seigneur nous donne de travailler dans les journées en pensant que nous préparons un lieu pour d'autres, même si nous ne pourrons pas être là, eh bien d'autres pourront bénéficier de notre travail. Je demanderai au Seigneur de me conduire pour les sujets de demain et de dimanche, mais je dirais que ce qui me frappe beaucoup, c'est que on est un peu comme les Israélites, dans le désert. Hein. Il fallait qu'ils construisent. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dû construire?
Des tentes.
Oui, il y avait leur tente, oui. Le tabernacle. Et pour construire le tabernacle, qu'est-ce qu'il fallait? Du bois. Il fallait aller chercher. Et il n'y avait que du bois d'acacia. Il fallait couper les arbres, il fallait faire des planches. Et bien, ils ont fait tout ce travail dans le désert. Et bien, c'est ce que nous allons voir. Nous savons que le bois est préparé. Et puis, il y a le plan qu'il avait donné. C'était l'Éternel qu'il avait donné à Moïse sur la montagne. Non seulement les tables de la loi, mais il avait donné le plan pour faire le temple. Le tabernacle, qui était au fond, qui correspondait au temple. C'est quelque chose de merveilleux. Mais il y avait des mesures, il y avait de la précision, et puis il y avait des équipes, et puis il y avait des hommes dont il est dit que Dieu avait doué ces hommes. Il leur avait donné un esprit de sagesse pour faire toute espèce d'ouvrage. C'est pas tous les mêmes ouvrages, mais chacun a son don, et il y a une répartition. Alors, nous bénissons Dieu pour ceux qui nous enseignent comment ils ont travaillé. Ils ont travaillé de tout leur cœur, puis les femmes aussi ont apporté leur, ce qu'ils possédaient, ce qu'ils avaient pour une collaboration bénie. Puis au temps de Salomon, il y avait aussi des équipes qui travaillaient alors à la construction du temple, non pas d'un tabernacle qui était portatif et qu'on enlevait, et des tentes qu'on pliait, mais une maison où on pouvait rencontrer le Seigneur. Et alors, pour nous, nous ne sommes plus dans le désert, nous ne sommes plus dans une ville comme Jérusalem avec un temple, mais nous avons mieux que tout cela. Par son incarnation, Dieu qui avait bien voulu habiter dans un camp, parce qu'on peut dire que Dieu était campeur, hein. Le premier campeur en Israël, c'était Dieu qui était sous une tente. Le peuple était sous des tentes, Dieu était sous une tente. Et puis ensuite, quand le peuple a eu une maison, Dieu était aussi dans cette maison, dans la ville. Il confond à se faire à nous, mais quelque chose de plus merveilleux encore, autant qu'on a, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a voulu vivre ici-bas comme un homme. Et lui qui était, Jésus qui était donc le Fils unique en de condition divine, a accepté de revêtir un corps de chair qui était formé dans le sein de Marie. Et c'est ainsi que la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors c'est cela. Donc, il y a eu un temps de Jésus avec ses apôtres, c'était Dieu avec ses apôtres. Dieu avec nous s'est réalisé. Mais nous connaissons plus que Dieu avec nous. Par sa mort et par sa résurrection, Dieu avec nous est devenu Dieu pour nous. N'est-ce pas? C'est Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Dieu avec nous, c'est son incarnation, mais maintenant, par sa mort et sa résurrection, c'est Dieu pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est quelque chose de merveilleux. Nous n'avons pas seulement Dieu avec nous, mais nous avons Dieu pour nous. Mais alors, par la Pentecôte, qu'est-ce que nous avons? Dieu en nous. Vous l'avez compris et vous suivez ce chemin. Dieu avec nous, Dieu pour nous, et maintenant, Dieu en nous. C'est notre cœur qui doit devenir le temple du Seigneur. C'est en nous et qu'il veut habiter. Alors, à ce avec nous, à ce pour nous, à ce en nous, notre réponse ce soir, et vous pourrez bien dormir, c'est avec lui, pour lui et en lui. Avec lui, puisqu'il est avec nous, nous sommes avec. Puisqu'il est pour nous, nous sommes pour lui. Quelle est notre raison de vivre? C'est pour lui. Et puis, puisqu'il est en nous, nous voulons être en lui. Notre sphère, notre vie, nous allons la passer en lui. Voilà. Nous nous laisserons conduire demain. Au lieu, c'est merveilleux de voir passer ces journées ensemble. Et de penser que même dans un travail tout à fait matériel, tu seras le grand directeur, tu es là. Et tu as qualifié les hommes qui sont là pour ces travaux. Nous voulons te demander qu'il y ait dans tout ce travail une collaboration bénie. Que vraiment chacun trouve sa place, que chacun soit heureux dans sa tâche, sachant que
cette tâche ne vient pas d'un homme qui décide, mais de toi, selon les qualifications que tu as données aux uns et aux autres. Et que nous soyons heureux de voir que ce que nous ne sommes pas capables de faire, d'autres peuvent le faire. Et que nous nous réjouissions de ce qui est fait est mieux que ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Mais que ce travail étant vraiment bon pour toi, que la moindre des choses qui soit, sera accomplie le soit vraiment à l'âme. Car tu nous dis que même un verre d'eau froide, quand il est donné en ton nom, ne perdra pas sa récompense. Tu sais que nous ne voulons pas travailler pour une récompense, mais nous voulons travailler pour toi. Et en travaillant pour toi, nous savons que nous travaillons pour les autres. Donne-nous de pouvoir nous oublier nous-mêmes. Qu'en même temps, nous puissions aussi nous parler les uns aux autres. Que nous ayons une communion fraternelle, que tu veilles sur nos discussions et que tu nous gardes et que nous puissions trouver qu'il y a du bonheur d'être avec des croyants, d'être avec des chrétiens et que nous puissions voir le contraste qu'il y a entre travailler ensemble, entre enfants de Dieu et travailler simplement dans le monde. Mais puisque nous célébrons Pentecôte, donne-nous aussi d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit qui va nous renouveler pour que nous puissions, quand nous rentrerons dans nos tâches séculières, être vraiment des témoins auprès de tous les hommes des choses que nous aurons vues et que nous aurons entendues pour la seule gloire de notre Père Messieurs, en Jésus-Christ, notre Seigneur, et par l'Esprit, notre divin consolateur.
Eh bien, mes amis, comme nous avons l'habitude de le faire, au début d'une journée, nous aimons écouter quelqu'un de plus grand que nous nous parler. Mais pour ça, il faut que nous sachions prêtez l'oreille. Et je lis au psaume 5e cette parole. Prête l'oreille à mes paroles, ô Seigneur. Écoute mes soupirs. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ou une autre version dit, et j'attends. J'attends, c'est-à-dire, j'attends tes délivrances dès le matin. Eh bien, mes amis, hier soir, quand nous sommes arrivés dans la nuit, nous avons constaté aussi, enfin nous y étions déjà dans la journée, mais nous avons constaté bien des choses qui ne marchaient pas. Nous nous sommes couchés quand même dans la paix en sachant que le Seigneur était le Dieu de délivrance puisqu'il ne sommeille ni ne dort, mais qu'il accomplirait dans cette journée dès le matin les miracles de sa grâce parce qu'il s'occupe aussi bien des choses matérielles que des choses spirituelles. Et c'est tellement merveilleux de penser qu'il nous aime entièrement, esprit, âme et corps. Et il n'oublie pas que c'est lui qui nous a formés avec nos organes et les nécessités que comporte le fonctionnement de ces organes. Et dès le matin, bien, il a donné déjà une première délivrance. Et nous attendons maintenant les autres délivrances. Nous regardons vers lui dès le matin. Mais ce n'est pas parce que nous aurions pu avoir des soucis hier soir que nous ne pouvions pas dormir. Il est dit qu'il donne aussi du sommeil à ses bien-aimés et il ne veut pas que nous soyons toujours en souci. Il nous faut considérer nos soucis, quels qu'ils soient, comme des péchés puisque dans sa grâce, il nous a promis d'intervenir. Comment ? Nous ne le savons pas, mais nous nous confions en lui. Et voyez-vous, j'ai fait une expérience très bénie hier, qui nous montre que même dans le travail matériel, le Seigneur peut nous parler. Quelques-uns savent que la mère de plusieurs de nos campeurs et campeuses a été reprise subitement à Clarence Smith et Mme Joffelstein. Et nous avons dû faire l'enterrement il y a quelques semaines de cette chère sœur qui, allant se coucher le soir à 55 ans, est tombée au pied de son lit, tandis que son mari lisait dans la chambre à côté, il a entendu un bruit, et il est allé, elle était perdue, elle ne respirait plus, on va la transporter à l'hôpital le lendemain matin. On a constaté quand même son décès. Et il paraît que quand je suis allé vers lui, je lui avais donné un texte qui lui avait fait beaucoup de bien. Sur la il m'avait dit une parole, et le Saint-Esprit m'avait inspiré une parole qui l'avait énormément consolé. Il m'avait dit ceci qui m'avait édifié. Il dit, tu sais Gaston, tous les soirs avant de nous endormir, eh bien, je tenais la main de ma femme et c'est ainsi que nous nous endormions. Et ça m'a fait quelque chose, ça m'a parlé. Et je lui dis, eh bien, Philippe, désormais, souviens-toi de ce que le Seigneur dit. Et je lui avais donné une parole. Et cette parole, elle se trouve dans Ésaïe 42, sur place, quand il m'a parlé, qu'il tenait sa main, je lui ai dit, eh bien maintenant, Philippe, écoute ce que l'Éternel te dit. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te tiendrai par la main, ou je tiendrai ta main d'une autre direction, d'une autre version. Je te garderai. Puis, j'avais eu à cœur de lui lire la fin. Et je t'établirai pour prêter une alliance avec le peuple, pour être une lumière pour les nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Parce que au salon funéraire, notre ami m'avait dit, tu sais, ce qui m'attriste tant dans notre coin de pays, c'est que tous les chrétiens sont divisés. Les églises évangéliques ne s'aiment pas. Et c'est quelque chose de terrible. Et puis, comme il venait de me dire qu'il s'endormait en tenant la main de sa femme, j'avais eu à cœur ce verset, je tiendrai sa main. J'étais allé plus loin et je lui ai dit, écoute, ne sais-tu pas peut-être que le Seigneur peut réaliser par la mort de sa femme l'unité de ces églises qui ne s'aiment pas, qui ne se saluent pas. Et il me parlait de chrétiens qui vont à la table du Seigneur, mais qui restent dans cet état-là. Et je lui avais donné la fin de ce chapitre, n'est-ce pas, au sujet de l'unité. J'ai dit, quand quelqu'un meurt, ça réunit tout le monde. C'est quelque chose de triste. Mais le Seigneur est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Je lui dis, qui sait si Dieu ne va pas employer la mort de sa femme pour l'unité des chrétiens. Ça, je lui ai dit sur place. Mais partant du verset, je tiendrai ta main. Et hier matin, alors que j'avais un tas d'ennuis, des difficultés, Philippe me téléphone avant 8h, puis il me dit, écoute Gaston, tu m'as donné un verset qui m'avait tant bien, mais je ne me souviens plus où tu l'as trouvé, est-ce que c'est dans Ésaïe, est-ce que c'est dans Jérémie, il y a 66 chapitres dans Ésaïe, il y en a 52 dans Jérémie, et puis moi, bêtement, j'avais un blanc complet. Comment voulez-vous que je me souvienne de toutes les paroles que je peux dire au cours d'un ministère dans un cas particulier? Il y a des gens que je rencontre 50 ans après qui me disent, vous savez, on se souvient toujours de la parole que vous nous avez donnée. Moi je me dis, ils pensent que je dois m'en souvenir. Je suis qu'un canal, et si je suis un canal, je ne sais pas de moi que ça vient. Ça vient du trône de Dieu, et je la transmets Alors j'ai dit, écoute Philippe, je prierai pour que le Seigneur me rappelle la chose. Et notre certitude, c'est que même si on ne se souvient pas, le Saint-Esprit devient notre mémoire. Et Jésus l'a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, je vous rappellerai les choses que je vous ai dites. Alors hier, dans cette cuisine même, pendant que nos sœurs Eva et Françoise étaient aux achats pour les livres, je balayais. Puis je priais tout en balayant. Vous voyez, vous me direz, c'est bien facile, en balayant, vous pouvez bien prier. Nous, nous sommes dans un travail qui est beaucoup plus difficile que de balayer. Si vous dites cela, vous ne penserez jamais au Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne connaîtrait-il pas tous les métiers? Et même si moi j'avais encore le privilège de la solitude, bien même quand nous sommes entourés, on peut se trouver solitaire si le Seigneur captive notre pensée. Alors tout en balayant, je disais, Seigneur, quand même, tu pourrais bien me rappeler cette phrase que Philippe aurait voulu avoir. Et puis tout à coup, je tiendrai ta main. S'il m'avait dit cela, j'aurais tout de suite saisi. S'il m'avait dit, c'est la phrase où il a dit, je tiens les âmes. Mais lui, il m'a dit, tu m'as parlé d'unité. Mais je ne savais plus ce que c'était. Mais en relisant, je tiendrai ta main, j'ai trouvé la suite. L'unité des chrétiens, parce qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé à cet enterrement? L'église était archi-pleine de tous ces chrétiens qui ne se saluaient plus. Et depuis, il y a des réconciliations qui se font. Des gens qui vont se demander pardon les uns aux autres. Et Philippe trouve dans la mort de sa femme une vraie consolation. Mais pourquoi faut-il que ce soit toujours la mort qui nous rassemble? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas nous juger des choses qui nous divisent, parce que c'est toujours la chair qui nous divise, pas la chair de l'autre nécessairement, mais notre propre chair, qui n'est pas jugée. Et puis alors, nous faisons les fossés grandir, et il faut que ce soit une fosse qui nous réunisse. Quand les fossés ont grandi, il faut une fosse. Et nous allons travailler les uns les autres, penser que le Seigneur peut nous parler au sein même de nos travaux. Souvenez-vous d'Ésaïe 42, et je vais le transmettre tout de suite à Philippe en lui disant, le Saint-Esprit m'a rappelé la parole que je t'avais donnée. Non seulement je tiendrai ta main, mais tu pourras être une alliance avec les peuples par le deuil que tu viens de connaître. Et si tu l'acceptes de la part du Seigneur, si tu sais qu'auprès du Seigneur, ta femme est mieux qu'auprès de toi, eh bien, loue le Seigneur pour ses dispensations, ses voies. Tu sers le Seigneur, comme je dis souvent, servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour lui, être des femmes et des hommes voulant faire des bonnes œuvres ou voulant être dans les œuvres de Dieu. Ce n'était pas ce que Marie a fait. Elle n'a pas voulu être dans l'œuvre de Dieu, mais elle était nourrie de la parole. Et un jour, Dieu l'a vue et lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. Et elle s'est laissée faire par le Seigneur. Laissez-vous faire par le Seigneur, même si vous devez passer par le deuil ou par une affliction. Vous n'avez pas à demander des afflictions, mais même si elles arrivent, toutes choses, travail, ça fait mal, c'est les douleurs de l'enfant, au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu notre Père. Tu nous enseignes tous les jours et nous sommes toujours à ton école. Nous sommes des êtres oublieux et nous nous en humilions. Mais nous te remercions pour ta grâce qui dès le matin nous rappelle tes promesses. Oui, dès le matin, nous pouvons te prier et dès le commencement de la journée, regarder comment tu vas opérer ces délivrances. Nous te bénissons parce que dans ce temps de Pentecôte où tu nous parles de la descente du Saint-Esprit, nous voulons croire éperdument que le Saint-Esprit est une personne qui nous habite et qui peut devenir, même quand nous n'avons pas de mémoire, notre mémoire, et nous rappeler les paroles vivantes qui sont dans ta parole, car tes paroles sont et sont vie. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Nous mettons ce camp et tous ceux qui y travailleront, nos sœurs comme nos frères, sous ton sang précieux, afin que Satan ne puisse toucher à personne. Nous te remettons aussi les plus petits, les enfants qui sont parmi nous, gardés de tout accident, de toute imprudence, et donne-nous de vivre une journée dans la paix, dans la joie, parce que dans l'amour de Jésus et de Jésus seul, au nom duquel nous te faisons toutes nos requêtes, parce que ton Fils est toujours exaucé. Amen.
Amen. Bonjour.